Studio Tamani, voici les informations en français.
Mercredi 23 juillet 2025, il est 8h temps universel. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Les États-Unis réitèrent leur engagement à lutter contre le terrorisme et prêts à collaborer avec le Mali dans ce sens. L'assurance a été donnée hier par le sous-secrétaire adjoint aux affaires africaines au département d'État des États-Unis en visite au Mali. Mali Météo alerte sur une saison hivernale très pluvieuse dans plusieurs parties du pays, notamment dans les régions de Tombouctou et Gao. Sur place, les populations se mobilisent déjà pour prévenir les cas d'inondation. L'apprentissage dans les écoles coraniques pendant les vacances est une tradition au Mali, mais le châtiment corporel toujours en vigueur dans ces classes divise les parents d'élèves. Ce sommaire vous sera détaillé tout à l'heure par Dramane Meïga. La mise en onde est assurée par Gagny Kanté. D'abord cette nouvelle, les artistes chanteuses Babani Kone, Bigini Bagaga et Mariam Ba ont été placés hier mardi sous mandat de dépôt. Selon plusieurs sources, les trois célébrités sont poursuivies pour injures réciproques et atteintes aux mœurs. Des faits qui leur sont reprochés à la suite des propos et comportements tenus sur les réseaux sociaux. Leur procès est prévu pour le 4 septembre prochain. En fin de visite au Mali, le sous-secrétaire adjoint aux affaires africaines au département d'État des États-Unis, William Stevens, s'est entretenu avec la presse hier mardi. C'était à la résidence du premier conseiller de l'ambassade des États-Unis au Mali. Face aux journalistes, le diplomate américain est revenu sur les sujets qui ont été au centre de ses échanges avec les autorités maliennes. Il a aussi expliqué ce qui constitue les priorités de son pays dans le cadre de sa coopération avec le Mali. Un compte-rendu de Aïssata Diarra.
La sécurité a été l'un des sujets phares des discussions du sous-secrétaire d'État avec les autorités maliennes. Selon William Stevens, les États-Unis restent engagés dans la lutte contre le terrorisme et prêts à collaborer avec le Mali dans ce sens. William Stevens, sous-secrétaire adjoint aux affaires africaines au département d'État des États-Unis.
La lutte contre le terrorisme, c'est la lutte de tout le monde. Al-Qaïda, Jenim, ISIS sont des menaces pour les États-Unis. Lutter contre eux, ce serait vraiment une aubaine pour nous de collaborer avec le Mali. Ce sont des terroristes qui sont sanctionnés par les États-Unis. Ce que nous pouvons faire, essayer de bloquer leur argent qui se trouve dans les différents comptes et de faire en sorte qu'ils n'aient plus accès à d'autres financements.
En dehors des questions sécuritaires, les autres domaines d'intervention comme la santé et le commerce n'ont pas été oubliés. Pour le sous-secrétaire d'État William Stevens, renforcer ces liens de collaboration permettra de reconstruire les relations entre les deux pays.
J'ai eu également l'occasion de visiter différents centres avec lesquels nous travaillons, surtout le NIH qui se trouve au point G. Je suis surtout dans la lutte contre le paludisme. Échanger par rapport au vaccin qui a été mis en place pour lutter contre le paludisme. À travers la création de la Chambre américaine de commerce dans les jours à venir, qui ouvrira la porte à des investisseurs américains pour venir investir ici au Mali et travailler avec les investisseurs maliens.
Le sous-secrétaire adjoint aux affaires africaines au département d'État des États-Unis a assuré que le renforcement de la collaboration se fera dans un cadre de liberté, de respect des choix et de la souveraineté des deux pays.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X. Le projet de charte pour la paix et la réconciliation a été remis dans l'après-midi d'hier mardi au président de la transition au Centre international des conférences de Bamako. Ce document comportant un préambule, 16 titres, 39 chapitres et 106 articles doit contribuer à l'éveil de confiance, à l'éveil de conscience plutôt, à la moralisation de la République et à la Reconstruction nationale de la paix retrouvée. En recevant la charte, le général d'armée Assimi Goïta a déclaré que ce document exprime la souveraineté retrouvée du Mali sur ce choix de paix, de justice et de cohésion sociale. Il est au micro de Imirana Kiloumeiga.
Cette cérémonie solennelle marquant la remise officielle du projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale constitue une étape décisive dans notre quête collective d'un avenir meilleur. Cette charte, fruit d'un dialogue national inclusif et enracinée dans nos valeurs, exprime la souveraineté retrouvée du Mali sur ses choix de paix, de justice et de cohésion sociale. Après tant de soubresauts, d'incertitudes et de ressentiments à la suite ou à l'occasion de situations de crise ou de conflits, l'heure est venue de panser les plaies, d'écouter les voix longtemps tues et d'envisager l'avenir sous de meilleurs auspices. Le sacrifice consenti par les fils et les filles du Mali pour cette paix est un legs précieux qui fonde notre volonté d'aller vers une nation réconciliée et résolument tournée vers le développement.
Comme annoncé au sommaire, selon l'Agence nationale de la météorologie Mali Météo, les régions du Nord auront cette année des cumuls pluviométriques qui dépasseront la normale. Les services météorologiques alertent aussi sur des risques d'inondation dans ces régions durant la période de juillet à septembre 2025. Dans les régions de Tombouctou et de Gao, les populations se mobilisent déjà afin de prévenir les dégâts liés aux inondations. Les détails avec Fatia Tara.
À Gao, les populations ne cachent pas leur inquiétude après cette annonce des services de la météo, car certains se souviennent encore des durs épisodes du 16 août 2024 où les inondations ont failli engloutir toute la ville. Ils font avec les moyens de bord, notamment le crépissage de leurs maisons en banco.
C'est vraiment inquiétant. La majeure partie de nos maisons sont construites en banco. On est obligé de crépir nos maisons par les moyens de bord.
Même atmosphère dans la cité de 333 Saints. En plus du crépissage, les populations s'activent à curer les caniveaux et creuser des voies permettant un bon ruissellement des eaux de pluie. Handedo Maïga, un leader des jeunes, invite les populations à mener des actions collectives pour contrer de façon efficace les inondations.
De voir aussi au niveau de la rue et autres, de dégager tout ce qui peut obstruer l'écoulement de l'eau. Et aussi, on fait passer le message autour du voisinage parce que ça ne suffit pas que ce soit fait chez soi. Parce que si c'est fait devant ta porte et que chez le voisin, ce n'est pas fait, le problème n'est pas résolu.
Pour rappel, les inondations de l'année dernière ont fait plus de 259 795 sinistrés, 148 blessés, 76 décès au Mali.
Dans un communiqué publié cette nuit, l'état-major général des armées indique avoir mis la main sur une quantité importante de matériel de guerre destiné, je cite, à une organisation terroriste agissant au Mali. Le matériel saisi est composé de 4000 tenues militaires, plus de 3000 paires de Rangers, entre autres. La note poursuit que cette saisie est le fruit d'une coordination entre les services des renseignements des pays de la Confédération des États du Sahel appuyée par un pays frère.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondello Mali en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali URTEL, financé par l'Union européenne, les gouvernements du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
Nous faisons place à notre dossier de la semaine. Pendant les vacances scolaires, nombreux sont les parents qui envoient leurs enfants dans les écoles coraniques. L'objectif est de leur apprendre le Coran, mais aussi de leur inculquer des valeurs de l'islam. Dans ces lieux, les techniques d'apprentissage basées notamment sur le châtiment corporel diffèrent de celles de l'enseignement classique. Selon des maîtres coraniques, le fouet vise à inciter les enfants à suivre les cours. Quant aux parents, ils reste partagé sur l'usage du fouet pendant ces cours coraniques. Le reportage de Maïmouna Fakaba Sissoko.
Dans ces classes, assises à même le sol, des enfants récitant le Coran. Des élèves pour la plupart, ces enfants sont envoyés chaque année pendant les vacances scolaires pour apprendre des versets du livre saint. Mais dans ces écoles, l'usage du fouet est encore de rigueur. Ce maître coranique qui a gardé l'anonymat explique les raisons.
Certains enfants viennent ici. Ils sont intelligents et aiment étudier. Mais il y a d'autres pour qu'ils apprennent, il faut les frapper.
Pour
les parents, inscrire les enfants à ces cours est une façon de les transmettre des valeurs religieuses. Si beaucoup reconnaissent que la discipline est nécessaire, certains estiment aussi que les maîtres coraniques vont parfois trop loin.
Tout le monde aimerait que son enfant étudie, mais le frapper de telle sorte, c'est ce qui n'est pas bien. Parce qu'après, ce sont les parents qui vont ramasser les pots cassés.
Il est parti pour étudier. Si tu vois que le maître coranique le frappe, c'est parce qu'il n'a pas été sage.
Chaque enfant a sa façon d'être éduqué. Il y a certains, quand ils les chouchoutent, ils apprennent. Il y en a d'autres également, quand tu ne les frappes pas, ils ne vont pas apprendre. Donc je ne vois pas de mal à ce qu'on frappe les enfants.
Se retrouver face à un maître avec le fouet à la main, après avoir passé 9 mois dans une salle où le châtiment corporel est interdit, cela est-il sans conséquence pour l'enfant? Le pédagogue Seydou Loa répond par la négative. Selon lui, cette forme d'apprentissage peut avoir des répercussions sur l'enfant comme le dégoût d'apprentissage.
Concernant le châtiment corporel que les enfants subissent durant ces cours d'école coranique, ce n'est pas une bonne chose du tout. Ça peut avoir des impacts négatifs sur l'enfant. Déjà, ça peut le blesser. Ça peut aussi donner à l'enfant le dégoût de l'apprentissage. Ça peut faire en sorte que l'enfant n'apprenne pas aussi. Donc, le châtiment corporel est une mauvaise chose en réalité.
Les cours coraniques sont une tradition bien ancrée dans notre société et participent à l'éducation religieuse des enfants. Toutefois, il est nécessaire de veiller à la façon de les dispenser afin d'éviter des actes de violence pendant ces cours.
C'est ce dossier qui referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la version à Bamanaka avec Juliette Koulibaly. Mais en attendant, place au magazine du jour. Le henné ou djabi en bambara est très prisé chez les femmes maliennes, notamment pour se faire belle, surtout lors des grands événements, notamment des grandes fêtes, les baptêmes et les mariages. Plusieurs activités se créent autour de la transformation de cette plante. À Bamako, à Ségou ou encore Mopti et Gao, passant par Tombouctou, des femmes font de l'application du henné leur principal métier. En plus de se faire belle, certaines affirment gagner leur vie grâce à sa commercialisation. Ce magazine est une réalisation de Fatia Tara.
Nouveau marché de Médine en commune de Bamako. Ici, nous sommes précisément à la célèbre place des tatoueuses au henné traditionnel appelé en bambara djabi. Et nous sommes vendredi, plus que 48 heures avant le dimanche, jour de mariage à Bamako, comme le dit le célèbre couple non-voyant Amadou et Maria.
C'est un jour de mariage.
La paillote refuse du monde. Les femmes sont venues de tous les coins et recoins de Bamako pour se faire belles. Parmi elles, Marianne Welegem venue se faire tatouer les mains et les pieds avec du henné à quelques heures de la célébration du mariage de son frère.
J'applique le henné parce que j'ai un mariage. Ça rend joli les pieds et puis ça rend plus belle la femme.
Même sans accessoires et les autres parures, avec le henné, la femme est splendide, nous explique Madame Diara Aïssata Koulibaly, traditionnaliste à Sikasso. Selon elle, le djabi est une plante bénie que les femmes applique depuis la nuit des temps.
Le henné a beaucoup de vertus. Ça fait partie de notre culture. L'application du henné est importante pour une femme mariée. Cela peut beaucoup contribuer à stabiliser son foyer. Ça fait rayonner la peau.
Sur le plan religieux, des érudits confirment la sainteté de la plante et sa beauté. Mohamed Sissé, enseignant-chercheur au lycée franco-arabe de Fombabougou, indique que le prophète, paix et salut sur lui, conseillait à ses compagnons de se soigner avec le henné en cas de blessure et aux femmes de l'appliquer sur les pieds pour paraître belle aux yeux de leur mari.
D'après Oum Rafia, elle dit dans un hadith que le prophète Mohammed s'est toujours soigné par le henné. Alors dans une autre version du même hadith, il dit le prophète a conseillé à tous ceux qui l'ont consulté pour des blessures à la tête d'appliquer le henné. Comme vous le voyez chez certains hommes, et ils mettent le henné sur leur barbe pour que les cheveux blancs prennent une autre couleur.
Beaucoup d'hommes apprécient d'ailleurs l'application du henné sur les pieds et les mains des femmes. C'est le cas de cet homme qu'on a rencontré à Medinakoura. Pour lui, le henné rend la femme très belle et irrésistible.
Ça rend plus belle la femme, quoi. Parce que ça fait partie de notre culture. Permanemment, je veux voir ma femme avec du henné.
Selon certains traditionnalistes, la sacralité du henné ne permet pas aux enfants, notamment les petites filles, de l'appliquer. L'une des croyances autour du sujet est que son utilisation empêcherait à une femme d'avoir un mari au moment voulu. Une croyance bravée de nos jours, car les filles utilisent le henné au même rythme que les femmes mariées. mariée. Rencontrée au grand marché de Bamako, Sakinatou Keïta est une fille de moins de 17 ans. Elle s'est fait parfaitement tatouer. Selon elle, le henné fait partie de ses accessoires de beauté.
Même si ce n'est pas la fête, j'utilise le henné parce que j'aime le henné. Mais d'autres disent que tant que tu n'es pas mariée, tu ne dois pas mettre le henné. Mais moi quand même, je mets.
Les femmes qui font les tatouages avec le henné se frottent bien les mains. C'est le cas de Djeneba Cissé, habitante de la cité de Balanzan. Elle applique le henné sur les pieds des femmes.
Les pieds et les mains, nous les faisons à 2500 voire 3000 francs CFA. Si c'est du henné rouge, on peut le faire à 4000 francs. Pour les mariés, c'est 5000 francs. Je peux appliquer le henné à 10 femmes par jour. Grâce à cette activité, j'ai pu m'acheter une parcelle de terre et je le construis. J'ai eu beaucoup de personnes à former.
Notons que le henné est une plante originaire des zones chaudes comme l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, l'Inde et l'Asie centrale. Au Mali, il est produit essentiellement dans la région de Koulikoro et Kaï. Les femmes sont au premier rang de la production et la transformation de la plante.